Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi. Marianne Paquette, Kaylin, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, je discute avec José Lavigueur, que vous connaissez certainement, en tout cas du moins, qui est bien connu du grand public québécois comme porte-étendard de la forme physique et des saines habitudes de vie. Et José nous parlera en deuxième partie d'émission de son 30e DVD en carrière, c'est pas rien ça, qui s'intitule Maternité Santé et qui propose des exercices aux femmes enceintes et aux mamans pour demeurer active et en forme. Et ce, en toute sécurité, c'est assez important. Et puis d'abord, vous dire qu'il y a un peu plus de 2,5 millions de Québécois qui ont signifié leur volonté de léguer leurs organes à leur décès, que ce soit via la Régie de l'assurance maladie du Québec ou par la Chambre des notaires. Ça, c'est assez une bonne nouvelle. Force est de constater que notre société, la population est sensibilisée à cette cause extrêmement solidaire. Et c'est la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui débutait le 19 avril dernier. Et on se permet d'en parler aujourd'hui avec le docteur Pierre Marcellet, lui interniste intensiviste et coordonnateur du Centre régional de prélèvement d'organes pour la transplantation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Docteur Marcellet, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous travaillez vous militez pour le don d'organes et de tissus depuis 1995. Donc, vous serez assez d'accord avec moi pour dire que le don d'organes, c'est un geste d'espoir, de grande générosité. Et les Québécois sont bien conscientisés à cette cause-là. Comment on peut expliquer qu'encore aujourd'hui, en 2015, il y a plus d'un millier de personnes, oui, qui sont en attente d'une transplantation?
C'est une réalité qui existe partout. Il semble que le nombre de personnes qui tombent malades nécessitant des greffes d'organes va plus vite que notre capacité à améliorer notre vigilance et la coordination des dons. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, le nombre de nouveaux insuffisants rénaux par année au Québec était d'environ 500. Et maintenant, il y a 1000 nouveaux cas d'insuffisants rénaux par année au Québec.
Mm-hmm.
Donc, on a doublé. On greffe environ entre 160 et 250 reins. Il y a 1000 nouveaux insuffisants rénaux. On en greffe 150 à 200. Alors, il y a explosion du nombre de personnes qui ont besoin d'être greffées sur la dialyse.
Mm-hmm.
Alors, est-ce qu'on va arriver un jour à suffire à la demande? Je pense que la greffe est un excellent moyen. Puis, à part ce moyen-là, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention pour éviter toutes ces nouvelles insuffisances rénales qui surviennent. Ça, c'est à part toutes les autres maladies, là,
mm-hmm.
les foies, cœur, pancréas, etc. Là.
L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, c'est vraiment un leader mondial en ce qui a trait au prélèvement d'organes. C'est quoi la situation ailleurs dans le monde?
En fait, les meilleurs au monde, vous savez, la meilleure façon de mesurer l'indice d'efficacité en transplantation, c'est parce qu'il y a toutes sortes de façons,
mm-hmm.
mais en fait, ultimement, là, c'est le nombre de personnes transplantées par million.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, on a un bon indice. Il y a combien de personnes qu'on a réussi à transplanter par million? Et je vous dirais que les meilleurs pays, les pays qui se sont dotés d'organisations, de vigilance, de structures, de sensibilisation, de coordonnateurs, les meilleurs au monde, c'est des pays européens. C'est la Belgique, l'Autriche, la Croatie, l'Espagne. La France aussi, qui sont très, très bons. Comparé à nous, au Canada et au Québec, là, ils sont vraiment au-dessus de nous.
Mm-hmm.
C'est une autre pointure. Pourquoi ces pays-là fonctionnent aussi bien? Pourquoi il y a autant de différence entre eux et nous? C'est pas la volonté de donner. Parce qu'on revient toujours à pourquoi les gens veulent pas donner.
Oui.
Le problème n'est pas là. Et c'est vouloir faire porter la responsabilité aux gens. C'est bien facile. Ils n'ont pas de voix, eux autres. Pourquoi les gens ne signent pas? Mais les gens signent, mais au bout de la ligne, on réalise qu'il n'y en a pas suffisamment. Le problème n'est pas là. Et tant qu'on va vouloir insister pour que les gens signent plus, il faut que les gens signent. Mais on ne vise pas le bon problème. On essaie pas, on s'adresse pas au bon problème. Le vrai problème, c'est quand il y a des donneurs d'organes au Québec, n'y a pas de professionnels suffisamment sensibilisés ou vigilants pour s'apercevoir qu'ils en ont un potentiel devant eux. Oui. Alors que ça n'existe pas en Espagne. Quand un donneur potentiel se présente dans un hôpital en Espagne ou en Belgique, les médecins ont la vigilance, ont la formation, ont l'éducation pour dire « Hey, si j'ai un donneur, je vais l'offrir à la famille, l'option du don d'organe. » Ici, si, au Québec, si je ne l'offre pas à la famille ne peut pas dire oui. On ne leur a même pas dit que ça se prêtait. La famille vit un drame, la personne meurt, tout le monde est triste, mais on ne leur a pas dit qu'il faut faire le don d'organe. Mm-hmm. C'est ça le nœud du problème, le cœur du problème au Québec.
Et d'ailleurs, c'est un petit peu la mission du Centre régional de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. C'est cette espèce d'échange de connaissances-là entre spécialistes de la santé.
Oui. Ce qui fait la différence ici à Sacré-Cœur, c'est que nous offrons une structure organisationnelle pour supporter les donneurs, puis on offre ça instantanément. Je vous donne un exemple. Si un donneur potentiel se présente dans un hôpital en Espagne, à Madrid par exemple, les ressources sont immédiatement disponibles. Vous avez un lit de soins intensifs immédiatement disponible, des professionnels, des gens compétents qui vont s'occuper du donneur. Ici, au Québec, la ressource lit de soins intensifs est une ressource rare. Mm-hmm. Vous prenez votre numéro puis vous attendez votre tour. Alors, à l'urgence, il peut y avoir des patients, un infarctus, un accident cérébrovasculaire, une méningite, une pneumonie. Et puis là, il y a besoin de monter aux soins intensifs, mais les places aux soins intensifs, ça prend des heures avant de réussir à avoir une place. Donc, si on a un patient qui est en mort cérébrale, nécessairement, le pronostic est nul, la personne est décédée et c'est un échec. Mm-hmm. Là, est-ce qu'on va utiliser un lit de soins intensifs aussi, ces lits qui sont si précieux pour une personne qui est décédée, alors qu'on a des gens vivants qui sont critiques, instables, qui ont besoin d'être sauvés? C'est toute la polémique autour de ça. Alors, on se fait dire par des confrères, et ils ont raison, pouvons-nous, s'il vous plaît, sauver les vivants avant d'essayer de sauver les morts, mm-hmm. avant de traiter les morts? Ces gens-là ne mesurent pas, par exemple, l'importance des gens, des donneurs d'organes qui, même s'ils sont morts, peuvent sauver chacun 8 personnes qui sont dans des lits soins intensifs ailleurs ou chez vous. Comprenez-vous? Donc, il y a un effet d'entraînement, mais les gens ne voient pas nécessairement jusque-là. Alors, s'il y a une ressource disponible immédiatement, comme en Espagne, comme en Belgique, c'est-à-dire s'il y a un donneur d'organes, on peut garantir qu'on le prend tout de suite parce qu'on a des lits de soins intensifs réservés pour ça, on a des professionnels réservés pour ça, des salles d'opération réservées pour ça. Alors, la chaîne est complètement optimisée du début à la fin. Mmh. Et ceci est vrai à Sacré-Cœur. Donc, s'il y a un donneur dans n'importe quel hôpital autour de Sacré-Cœur qui a besoin d'être transféré pour faire un prélèvement d'organes, nous, on peut dire aux gens, ben, on le prend tout de suite. Alors, il n'y a personne qui a des problèmes d'accès dans son hôpital ou qui peut avoir un problème de partage de lits de soins intensifs ou d'une ressource si précieuse dans son hôpital, mm-hmm. parce qu'il peut nous l'envoyer tout de suite et nous le prenons tout de suite.
Et ça se passe comment en région éloignée pour les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux?
Bien, dépendant du territoire de desserte, vous savez, Sacré-Cœur a son corridor, a ses hôpitaux de desserte, ce qui fait que nous, on va jusqu'en Abitibi. Alors, s'il y a un donneur en Abitibi, on accepte le transfert. Ça vient par avion, là. Le patient va être transféré par avion.
Ça doit se faire assez rapidement pour conserver la qualité de l'organe.
Il faut que ça se fasse assez rapidement parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, les donneurs d'organes, les gens en mort cérébrale, sont la plupart du temps très instables parce que le cerveau contrôle toutes sortes de réflexes, toutes sortes de paramètres physiologiques. Ça peut être la température, ça peut être la pression, ça peut être le rythme cardiaque. Même s'il y a des facteurs hormonaux là-dedans, les donneurs d'organes peuvent être très instables parce que le cerveau meurt, il y a plein de fonctions qui sont difficiles à contrôler par la suite. Puis l'autre raison pour laquelle il faut que ça se fasse rapidement, c'est qu'on a une famille en souffrance qui vit tout ça. Et la famille, souvent, va nous dire, « Bien, docteur, quand est-ce que ça finit? Nous, on a hâte que ça finisse. » Parce que, dans le fond, pour eux autres, ça finit vraiment quand la maison funéraire est appelée. Mmh. Alors, tant que le patient est supporté sur un respirateur, même si on dit qu'il est mort, même si son certificat de décès est complété, sa déclaration de décès est complétée, la famille a quand même hâte que ça finisse. Tant que on n'a pas appelé la maison funéraire, c'est pas fini. Mmh. Alors, s'il y a 48 heures de délai, parce qu'il faut trouver les receveurs, il faut faire l'attribution, trouver les correspondances et les compatibilités, là, les familles, parfois, vivent difficilement cette longueur-là et ont du mal à vivre leur deuil. Mmh. Ils peuvent dire, s'il vous plaît, docteur, on peut-tu arrêter? Oui. Donc, on peut être rendu au bout de 25 heures, puis docteur, on va arrêter, c'est trop douloureux pour nous. Mmh.
C'est un peu un coup d'épée dans l'eau dans ce cas-là.
C'est ça. Alors, il faut, nous, protéger et supporter et respecter cette douleur-là des familles, ce deuil-là. Imaginez, Mme Paquette, votre enfant qui meurt. Là. On ne peut même pas figurer ça. La douleur dans laquelle vous allez vous trouver. C'est sûr que puis le contraire est aussi vrai. Vous savez qu'il y a des familles qui se disent, ben, ça n'a pas de sens que mon fils soit mort. il faut absolument sauver. Il y a des gens qui sont prêts à attendre 4
donner
jours,
un sens
jours.
À cette perte-là.
Oui. Mm-hmm. Ça c'est vrai aussi. Ça dépend de la façon dont le don d'organes est perçu. Moi, j'ai des dames qui demandaient des sursis de 24 heures à 24 heures, qui espéraient procéder au don d'organes, mais le proche n'était pas en mort cérébrale. Mm-hmm. Il était très, 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 très lésé, il était très malade, mais il n'était pas en mort cérébrale, donc on ne pouvait pas faire le don d'organes. Parce qu'il savait que le pronostic était nul, ça c'était clair. Là. Donc, il souhaitait que la mort cérébrale survienne pour pouvoir donner un sens à ce qui se passe. Mm-hmm. Ça, c'est aussi vrai. Donc, il faut faire vite pour l'instabilité, pour supporter la fonction des organes, pour avoir le maximum d'organes avec la meilleure qualité possible à transplanter et sauver plus de vies, et aussi pour respecter cette douleur-là et cette attente-là des familles pour que ça finisse un jour.
Et je reviens à la qualité de ces organes. Est-ce que vous avez des critères, c'est-à-dire l'âge du donneur, s'il souffrait d'une maladie chronique, s'il était un fumeur ou pas?
Oui, tout ça est pris en considération. Mis à part les antécédents, savoir par exemple si c'est un hypertendu, un diabétique, son âge, s'il était coronarien, s'il était asthmatique, tout ça, on prend compte de ça. Mais en plus de ça, on mesure la fonction des organes. Par exemple, moi, je peux mesurer la fonction de vos reins. Même si vous êtes une hypertendue depuis 10 ans, si votre fonction rénale est très belle, il va y avoir des preneurs pour vos reins, même mm-hmm. si vous êtes hypertendu. Même si vous êtes diabétique, si votre cœur est très bon à l'échographie, puis on fait une coronarographie et vos artères coronaires sont très belles, votre cœur va être pris, même si vous êtes un grand diabétique. Alors, toujours, 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 on va évaluer la fonction des organes. Mm-hmm. Bien entendu, on préfère avoir des poumons d'un non-fumeur que des poumons d'un fumeur. Mais vous savez, il y a des gens, on a chacun notre vulnérabilité individuelle. Il y a des gens qui fument très peu puis qui sont très malades des poumons, puis des gens qui ont fumé beaucoup puis leurs poumons sont formidables. Ouais. Alors, c'est l'hérédité qui est responsable de ça. Et même si une personne a fumé, on mesure la quantité d'oxygène diffusée dans le sang, les échanges que le poumon est capable de faire. Et si le poumon fait des beaux échanges, il y a des preneurs pour ces poumons-là. Mm-hmm.
Et en ce qui a trait aux receveurs, comment vous établissez les priorités? J'imagine que c'est en suivant une liste d'attente?
Oui. Ça, c'est la beauté de la chose au Québec. C'est que depuis plus de 20 ans maintenant, il y a une liste unique. Parce qu'avant, chaque hôpital avait sa liste de receveurs. Donc, vous pouviez avoir votre organe plus vite si à un endroit plutôt qu'à l'autre. Mais maintenant, au Québec, puis même la plupart des c'est partout maintenant au Canada, là, la liste unique fait en sorte que il y a un ordre de priorité en fonction de l'urgence. Bien entendu, si vous allez mourir, si vous n'avez pas un foie au cours des 12 prochaines heures, parce que ça arrive, c'est une hépatite fulminante, ouais. Vous allez mourir si vous n'avez pas votre foie maintenant, et là, vous tombez tout de suite en haute priorité et vous allez être la première sur la liste. Ensuite, la durée de votre attente, si vous n'êtes pas en statut urgent, mais que ça fait 3 ans que vous attendez, bien là, vous montez en grade sur l'ordre de priorité. Et aussi, bien entendu, de la compatibilité. Ouais. Par exemple, si vous êtes un groupe sanguin facile à trouver un receveur, bien, vous allez avoir votre foie plus rapidement. Si vous êtes un groupe sanguin difficile à correspondre, bien là, vous allez attendre plus longtemps. Malheureusement, c'est un problème de compatibilité.
Et docteur, on parle de compatibilité. Docteur Marcellet, est-ce qu'on est capable d'évaluer les risques de rejet?
Oui.
Ah oui.
Maintenant, il se fait des tests de plus en plus poussés, des tests biochimiques ou des tests, je dirais, immunologiques, où on peut tester, par exemple, les cellules du donneur avec les cellules du receveur pour voir s'il y a des réactions. Vous savez, comme si vous étiez allergique ou si vous aviez si le receveur a des antigènes qui sont perçus par le receveur comme étant étrangers ou comme étant hostiles. Mm-hmm. Donc, on peut donner une certaine mesure du taux de rejet de l'indice de rejet potentiel, mm-hmm. c'est un pléonasme, qui nous pend au bout du nez. Et puis, on va essayer de faire correspondre la meilleure compatibilité possible pour diminuer ce risque de rejet-là le plus possible. Mm-hmm. Et ça fait des tests beaucoup plus compliqués, beaucoup plus élaborés, et ça prolonge, c'est un enjeu, en même temps, ça prolonge le processus d'attribution.
Ouais.
Si ça prend 6 heures... de trouver les receveurs pour un rein, bien, ça va bien. Mais si on veut être meilleur que ça, puis ça prend 18 heures, bien, tout le processus est prolongé. Ça inclut le maintien du donneur sur ses respirateurs et aussi la contrainte pour la famille.
Oui. On a parlé beaucoup de dons d'organes quand il y a mort cérébrale. Est-ce qu'il y a d'autres façons de donner ces organes au Québec ou du côté de l'hôpital du Sacré-Cœur?
Oui, mais ça, c'est vrai partout au Québec, pas qu'à Sacré-Cœur, à part après, je veux dire, la façon la plus habituel de donner les organes, c'est après la mort cérébrale, mais il existe une autre façon, qui est une ancienne façon qu'on a réactivée depuis maintenant 8 ans, depuis 2007 au Québec, c'est le don après la mort cardiaque. C'est-à-dire que si votre cœur arrête, après l'arrêt de votre cœur, donc la façon la plus normale de mourir, on peut prendre les organes. Mais ça, c'est un protocole compliqué, c'est un protocole, mais ça se fait bien. C'est un protocole plus complexe, plus délicat, où il faut, ça prend une grande organisation et une grande logistique pour arriver à mener à bien ça. Parce que vous savez que quand il y a un arrêt cardiaque, à ce moment-là, les organes ne sont plus en perfusion. Donc, vos organes commencent à mourir à partir du moment où le cœur arrête. Alors, vos reins sont en détérioration, votre foie est en détérioration. Alors, il y a une méthode, justement, pour minimiser ce temps-là où les organes sont en arrêt circulatoire. Et c'est tout un protocole qui...
Il y a urgence d'agir. Vous avez combien de temps? Ouais. Vous avez combien de temps, grosso modo, pour nous donner une idée?
C'est un protocole qui, par exemple, quand les familles acceptent ça, puis je vous dis que quand les familles veulent ça, ils y tiennent beaucoup, et je vous dirais que c'est nos meilleurs alliés là-dedans, là. À ce moment-là, l'équipe chirurgicale est prête. Ceci ne peut se faire que lorsque le décès est prévu. Je m'explique. Si, par exemple, votre proche a une lésion cérébrale catastrophique, il est sur un respirateur neurovégétatif et vous me dites, écoutez, moi, mon conjoint n'aurait pas voulu ça. On avait établi que si cette circonstance-là arrivait, on débranche puis on laisse faire la nature puis on va laisser mourir. Mm-hmm. Donc, dans cette circonstance-là, seulement au moment où le décès est attendu parce que votre personne, votre proche est sur un des appareils qui le maintiennent en vie artificiellement, alors, là, je vous dis, votre conjoint aurait-il voulu faire le don d'organes après sa mort? Vous me dites, oui, c'est ça qu'il veut faire. À ce moment-là, on fait toute la même procédure d'attribution, de trouver les receveurs compatibles, et au moment où on va débrancher votre conjoint, vous, parce que vous voulez l'accompagner dans son cheminement jusqu'à sa mort, au moment où on va le débrancher, l'équipe chirurgicale est déjà sur place, brossée, gantée, dans une salle d'opération, et on amène votre conjoint. On procède aux soins de fin de vie, ce qu'on fait aux soins intensifs d'habitude ou aux soins palliatifs, ce qui est usuel pour nous. Au lieu de faire ça dans ces endroits-là, on va le faire au bloc opératoire. Vous pourrez venir au bloc opératoire pour accompagner votre proche, et seulement que les gens, les intervenants soignants de votre conjoint sont présents pour faire la même chose qu'on aurait fait à l'étage aux soins intensifs. Et après l'arrêt cardiaque, vous quittez la salle, vous avez 5 minutes pour quitter la salle, et l'équipe chirurgicale qui est déjà prête entre dans la salle, et à 5 minutes d'arrêt circulatoire, le décès est attendu, l'équipe va justement très rapidement aller refroidir les organes dans la personne pour diminuer cette période d'arrêt circulatoire alors que les organes sont chauds, ne sont pas en état de dormance. Mm-hmm. C'est un protocole qui est plus compliqué, mais qui se fait bien. Et puis je peux vous dire que les familles considèrent que c'est une façon formidable de
faire un deuil, d'entamer un deuil.
Oui, tout à fait.
Ce que j'entends,
je peux vous dire que les familles sont très favorables à ça.
Oui. Ce que j'entends, docteur Marcellet, c'est que bien souvent, peut-être pas dans tous les cas, les familles sont votre un allié formidable en ce qui a trait au don d'organes. Il y a différents. Ce que j'entends aussi par là, c'est que c'est important de le mentionner au conjoint, à la conjointe, à ses parents, que c'est important pour nous, le don d'organes.
Je voulais dire de dire à ses proches qu'on veut donner. Oui, c'est probablement la chose la plus importante. Parce que vous avez beau signer votre carte, quelque part, il faut que votre proche ait une perception plus convaincante de votre position. Parfois, des gens vont dire « Oui, mais il a signé ça, mais... » Exemple, là, ça peut être... il a signé ça, mais il pensait qu'il fallait qu'il signe sa carte d'assurance maladie comme il signe sa carte de crédit. Puis donc, c'est pas ça qu'il voulait dire. Vous comprenez, on peut entendre toutes les raisons. C'est sûr que c'est celle que je viens de vous dire. C'est une raison plutôt rare, là. Mais les gens pourraient dire « Ah oui, mais je suis pas sûr, parce que la semaine passée, il m'a dit que, dans le fond, ça vaut peut-être pas la peine que... » Ou bien les gens vont nous dire « Bien, vous savez, c'est trop dur. Mon frère est décédé, ma mère trouve ça dur, puis là, elle pleure tout le temps, puis elle n'est pas capable de vivre son deuil, fait qu'on va laisser faire. Mon frère n'aurait pas voulu faire autant de mal à ma mère, fait qu'on présume d'intention et tout ça. » Alors que si vos intentions sont claires, si ce frère-là avait dit à votre mère « Oui, je veux faire le don d'organes, s'il vous plaît », bien, ça va renforcer cette position-là où la mère va dire, elle va se résigner, elle va dire, bien, écoutez, je trouve ça difficile, mais mon fils voulait ça, je vais respecter ça, on va faire ça. Donc, ça rend beaucoup plus, ça concrétise beaucoup plus le processus. Oui. Moi, je peux vous dire, quand les gens en ont parlé, c'est comme si c'était, ça scelle la situation, ça scelle la discussion.
Donc, en parler à ses proches et au Québec, il y a aussi différentes façons de consentir au don d'organes. Vous pouvez signer le formulaire de la Régie de l'assurance maladie du Québec, en parler à votre notaire ou encore signer l'autocollant qui est à l'endos de votre carte d'assurance maladie. Docteur Pierre Marcellet, vous êtes interniste intensiviste et coordonnateur du Centre régional de prélèvement d'organes pour la transplantation de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Merci beaucoup. Ça a été extrêmement éclairant de vous parler aujourd'hui. Un grand, grand plaisir et bonne semaine nationale du don d'organes et de tissus.
Merci à vous, Mme Paquette.
Au revoir.
Portez-vous bien.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Josée Lavigueur, bonjour.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Ce DVD Maternité Santé est votre 30e en carrière. C'est une étape importante, ça, pour vous?
C'est pas une étape pour moi, mais c'est un chiffre, disons, très rond, très en rondeur. C'est un chiffre qui m'impressionne parce que 30, il me semble que ça a filé. Ça a déboulé très, très vite et ça continue. Donc non, c'est pas une étape, mais c'est vraiment quand même, disons, un gros chiffre. Voyons ça comme ça.
Ce DVD est à l'intention des femmes enceintes, des nouvelles mamans, afin qu'elles gardent la forme et qu'elles restent actives. Pourquoi c'est important pour une femme enceinte de rester en forme avant son accouchement, Josée?
Bien, en fait, c'est que le fait de faire de l'activité physique pendant la grossesse ne va pas nécessairement garantir un accouchement plus facile. Ça, c'est un mythe, hein. C'est vraiment une fausse publicité. Si certains se servent de ça, c'est vraiment pas le cas. Ça peut aider, mais c'est plutôt pour maintenir une certaine condition physique et un certain niveau d'énergie qui va nous permettre de récupérer plus facilement après. Donc, les nuits vont être moins difficiles, par exemple. La reprise de l'activité physique, le retour vers nos bonnes habitudes de vie, ça va se faire plus aisément si on a maintenu un certain niveau d'activité physique pendant la grossesse. C'est super important. Puis il y a aussi tout l'impact direct et spontané. C'est-à-dire que aussitôt que je bouge, j'active ma circulation sanguine, donc je diminue les risques de crampes, ou en tout cas, je diminue les effets des crampes, je diminue les varices possibles, les maux de tête, les nausées. Il n'y a que des effets positifs à l'entraînement.
Et j'imagine que pendant la grossesse, c'est assez important de favoriser des exercices sécuritaires. Et c'était votre but aussi avec ce DVD?
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on essaie d'adapter les exercices pour qu'ils soient convenables pour les femmes enceintes selon le trimestre aussi. Parce qu'on sait bien que, par exemple, dans le premier trimestre, le placenta n'est pas encore solidement accroché. Donc, il faut être un peu plus prudent. Ironiquement, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes pendant le premier trimestre. Donc, il faut, à partir du moment où on le sait, il faut faire attention. Il faut peut-être faire des exercices un peu plus contrôlés, diminuer peut-être les sauts, diminuer éviter les risques de chute ou de collision. Après ça, le placenta est un peu plus solide et on peut se permettre un peu plus. Par contre, le poids du bébé va faire que beaucoup de mouvements qu'on faisait avant sont moins confortables, sont moins agréables. Donc, on va modifier les exercices. Il y a des exercices, par exemple, qu'on ne fera plus à partir du troisième trimestre en position allongée sur le dos. physiologiquement parce qu'il y a un retour sanguin qui ne se fait pas bien. Le bébé est carrément appuyé sur une veine qui permet un retour sanguin normal. Alors, avec cette pression-là, la maman va se sentir un peu plus essoufflée. On a l'impression que, tu sais, on est un petit peu à bout de souffle. Donc, tu sais, on va techniquement dire à la femme de ne pas s'allonger sur le dos pour faire des exercices, mais en même temps, elle va le sentir. L'instinct est très, très fort. L'instinct des femmes, on le sait, c'est toujours très fort. Mais enceinte, il est encore plus important. Donc, elles ne feront pas des exercices qui les rendent inconfortables ou qui donnent l'impression de ne pas être bon. Ça, c'est certain. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment ajuster des exercices pour les rendre accessibles à tout le monde.
Et après, l'enjeu, c'est de rester actif, de garder la motivation après l'accouchement à faire de l'exercice et à continuer d'être en action.
Oui, tout à fait. C'est, l'enjeu, comme vous dites, est important parce que, évidemment, il y a un élément très précieux qui est le bébé et qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On doit s'organiser autour de l'horaire de bébé, on doit s'organiser autour de l'horaire peut-être de d'autres membres de la famille, mais il faut s'asseoir et trouver le moment ou la façon, parce que les deux parfois vont ensemble, pour faire de l'exercice. Est-ce que je sors? Est-ce que j'amène le bébé en poussette? Est-ce que je fais une promenade, une course avec bébé? Ou est-ce que je fais un DVD carrément dans mon salon avec bébé dans mes bras ou avec bébé qui me regarde dans sa chaise? Il y a plein d'options. Les femmes vont dire non, il n'y en a pas tant que ça, j'ai pas le temps. Mais quand on veut vraiment, et ça c'est le cas dans pour tout le monde, hein, c'est le cas enceinte ou pas. Quand on veut vraiment, quand on a au moins un minimum de motivation, bien, on trouve le temps, on s'organise.
Et vous proposez, à travers maternité, santé, des exercices à faire avec bébé?
Oui, absolument. Il y a un contenu pour les femmes enceintes avec Marie-Christine Proux et Patricia Panquin qui est en fin de grossesse, mais il y a aussi un contenu pour les femmes avec leur bébé. Donc, on a vraiment des enchaînements de cardio, donc des petits pas de... Ça ressemble un peu à de la danse, mais c'est vraiment du cardio. Je l'appelle mon cardio bien-être. Alors, c'est vraiment pour faire du bien. Ça fait grimper les fréquences cardiaques quand même dans une zone très confortable. Et après, ça, c'est 3 blocs de 8 minutes. Puis après, ben on s'en va faire du renforcement musculaire. Et les mamans qui avaient les bébés dans les portages pendant le cardio, ben là, les ont dans leurs bras, où on s'en va carrément au sol. Les bébés sont par terre, sont à côté, sont dessus, mais sont là, sont présents.
Et il y a aussi des étirements. Donc, maternité, santé, un DVD pour une mise en forme pré- et post-accouchement. Et c'est un cadeau encore de votre part, Josée Lavigueur. Vous êtes bien connue du grand public, éducatrice physique et porte-parole chez Énergie Cardio. Merci beaucoup de continuer à contribuer à notre forme physique et puis à nos saines habitudes de vie.
Ah ben c'est moi qui vous remercie pour votre précieuse confiance. Un gros, gros merci.
Au revoir, Josée.
Au revoir, au plaisir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. On est en rediffusion à 17h. Et puis, ben, manquez pas l'occasion de nous revenir avec vos commentaires, vos suggestions. Toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. On se donne rendez-vous donc demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.